Shalom uvracha, bon tov lekoulam, Shavua tov. Et nous revenons dans notre étude du dimanche matin, notre étude d'histoire. Et nous sommes toujours dans les péripéties, l'histoire du Bayit Rishon, du premier Beit Hamikdash. Et donc nous sommes arrivés la semaine dernière à la fin du Royaume-Uni. Ça y est, nous sommes après le roi Salomon. Le Beit Hamikdash a été construit, mais comme nous l'avions évoqué, eh bien le balagan ne pouvait plus durer. La Kedusha au niveau de la collectivité était là, l'abondance au niveau collectif était là, mais en moins 921, à la mort de Shlomo, moins 921, quand on parle de la datation grégorienne chrétienne, eh bien, nous sommes en moins 921, à ce moment-là, eh bien, à la mort de Shlomo, son fils Rechavam monte sur le trône. La situation dans le peuple juif est extrêmement critique, car si au niveau étatique tout va bien, au niveau personnel, au niveau de l'individu, eh bien, on ne peut pas aller plus mal. Le royaume a certes construit énormément, mais Monsieur Tout-le-Monde n'a rien à manger. Monsieur Tout-le-Monde va mal, Monsieur Tout-le-Monde a été croulé sous les impôts, sous le travail pour construire tous les temples des femmes de Shlomo, pour qu'on soit à la maison de Shlomo, le Beit Hamikdash Bichlal, n'en parlons pas. Et donc, eh bien, le peuple n'en peut plus. Rechavam, fils de Salomon, eh bien, va devoir choisir. Est-ce qu'il va avoir une politique beaucoup plus allégée, ce que lui recommandent les conseillers de son père, lui disant que s'il se montre plus clément, eh bien, le peuple appréciera énormément ce calme et donc fera de lui son véritable souverain. Mais malheureusement, il a d'autres conseillers, ses conseillers personnels, ses copains à lui, qui lui disent « Ma pitom, il faut que tu montres qui est le patron. Si ton père a été dur, sois encore plus dur. » Et effectivement, il décide d'écouter ses conseillers, les jeunes, et résultat des courses, eh bien, c'est un schisme qui s'ensuit. C'est la destruction en deux royaumes. Am Israël ne supporte plus de rester sous les ordres de Rechavam. C'est la révolution qui éclate. Et à ce moment-là, eh bien, le peuple juif est divisé en deux royaumes. Il faut bien comprendre que cet événement qui donc survient en moins 961 est certainement le pire scénario possible pour le peuple juif. Un peuple qui prône l'unité par excellence, Shema Israël, Hashem Elohim, Hashem Echad, s'en vient à se diviser en deux peuples distincts, deux royaumes différents. Alors, oui, c'est terrible, mais c'était très certainement nécessaire. Nécessaire pourquoi ? Eh bien, pour pouvoir amener l'avènement de deux secteurs identitaires dans le peuple juif. L'un sera relié au Kodesh, l'autre sera relié à la puissance matérielle. Et au fur et à mesure des deux royaumes, eh bien, on verra que le royaume de Yehuda, au sud, le royaume de la maison de David, à côté du Beit HaMikdash, sera beaucoup plus porté vers la Kedusha, vers le Kodesh, vers la Torah. Il y aura pas tous les rois seront des tzadikim, mais quand même beaucoup plus que dans le royaume d'Israël, qui par contre sera porté sur la construction du royaume et l'abondance du royaume. C'est ainsi qu'un prophète est envoyé pour couronner le roi d'Israël, le nouveau roi du Nord, et ce prophète s'appelle Achia Ashiloni, et il va couronner Yerovam ben Nevat. Et voilà, nous avons donc deux royaumes. L'un comporte au sud, eh bien, les tribus de Yehuda, Binyamin, un peu de Lévim, un peu de Shimonim, mais c'est tout. Et s'étendant sur un territoire finalement assez petit, de Beersheba jusqu'à Jérusalem, on va dire, alors que le royaume du Nord comporte les 10 autres tribus, alors en comptant une partie de Lévi et en comptant une partie de Shimon, les 10 autres tribus, et s'étend sur un territoire qui va du nord de Jérusalem jusque le haut de la Galilée. Donc un territoire beaucoup plus grand et qui va avoir pour capitale, eh bien, Shrem dans un premier temps et après Shomron lorsque, eh bien, cette dernière sera construite par Omri. Et c'est le moment de vous expliquer. Dans le royaume d'Israël, comment te dire ? C'est le balagan. C'est le balagan puisqu'il n'y a pas de succession, il n'y a pas de dynastie véritable, ou du moins pas dans le début du royaume d'Israël. Et finalement, eh bien, le plus fort suit celui qui a réussi à battre le dernier roi. Et donc, c'est un petit peu comme ça que ça se passe au début. Et effectivement, il faut bien se rendre compte que Yerovam ben Nevat, eh bien, se fait succéder par Nadav, ensuite Baasha, Allah, Zimri, des rois qui se succèdent, qui ne viennent pas forcément de la même tribu, mais qui prennent le pouvoir à un moment donné quand, eh bien, ils sentent que c'est faisable. La situation est terrible, d'autant plus que le fondateur du royaume d'Israël, Yerovam ben Nevat, a construit des murailles sur les chemins, empêchant les Juifs du Nord d'aller à Jérusalem, de peur qu'ils viennent à se réveiller à l'unité et à vouloir revenir vers Rechavam. Bekitsour, voilà la situation. Nous avons un royaume d'Israël au nord et un royaume de Yehuda au sud. C'est une situation terrible. Dans la majorité des cas, eh bien, les deux royaumes vont s'ignorer. De temps en temps, on va avoir un coup de génie où ils vont s'unir. Ça arrivera qu'une seule fois. Mais il va y avoir également des cas où on va se faire la guerre. Imaginez-vous la guerre entre juifs du nord et juifs du sud. Ah, celui qui voudrait être caricatural dirait entre Ashkenaz et Sépharad. Mais pas une guerre d'idées, non, 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 une guerre mamache. Imaginez-vous la situation. À ce moment-là, ces deux royaumes sont des vassaux. Ce sont des vassaux des grandes superpuissances de l'époque. Il y avait Pharaon d'un côté et il y a la Assyrie de l'autre. La Assyrie, le nord de la Syrie, voilà, le nord de la Syrie actuelle, Ashour. Comment est-ce que ça marche? Dans le royaume de Yehuda, les choses sont assez pépères, j'ai envie de dire, puisque finalement la succession se fait de père en fils. Rehavam, Avia, Asa, Yehoshaphat, Yehoram, Achaziaou. Tous ces rois se succèdent et sont finalement, bon, tranquillement. Tranquillement. C'est lorsque Athalia va monter sur le trône. Athalia, la régente, c'est la femme de l'ancien roi. Eh bien, Athalia, elle, va plonger le royaume dans une situation terrible. Il va falloir attendre Yoash pour ramener le royaume de Yehuda dans la Torah, et particulièrement avec son fils Amatsiaou. Pourquoi je m'arrête à Amatsia? Eh bien, parce que Amatsia arrive, on va dire en termes de timing, à un moment très particulier. Nous sommes en moins 800 à peu près. C'est-à-dire ça fait à peu près 100 ans que Shlomo est mort. 100 ans où le royaume de Yehuda vit aux côtés du royaume d'Israël. Pendant ces 100 années, alors que dans le royaume de Yehuda, il n'y a pas énormément d'événements qui se passent, dans le royaume d'Israël au nord, c'est tout le contraire. Tout d'abord, après ces 5 premiers rois qui se succèdent les uns après les autres, mais qui n'ont pas de rapport les uns avec les autres, eh bien, nous arrivons à un roi qui va être le premier à mettre en place dans le nord une dynastie. Ce roi s'appelle Omri. Nous disent nos sages, Omri était un rachat merouchat. Il a fait la Avodah Zarah, il a fait fauter le peuple juif. Alors, quel a été son mérite? Eh bien, de mettre une dynastie. Eh bien, Omri est un bâtisseur. Omri, certes, ne respecte pas la Torah, mais Omri a un profond amour pour le peuple juif et pour son royaume. Il va construire la ville de Shomron, il va construire plusieurs autres endroits en Israël qui va lui valoir le mérite d'avoir une dynastie de 4 générations, pour ne pas dire 5. Son successeur va être encore plus puissant que son père, puisque le fils de Omri deviendra Achav, Achav Melech Israël. Il faut savoir que les archéologues qui veulent être contre la présentation biblique, eh bien, pour les archéologues, Achav, il n'y a aucun doute possible qu'il ait bel et bien été le roi d'Israël. Pourquoi? S'ils sont prêts à mettre en doute le règne de David, de Shlomo, de Yerovam, pas de Achav, parce qu'on a retrouvé énormément de lettres, d'écrits, de choses qui sont relatifs à Achav, ce qui montre eh bien, que ce dernier était extrêmement impliqué dans la vie, on va dire, internationale. Omri, Achav, après Achav, nous avons un homme qui s'appelle Achaziaou, mais qui ne va pas régner longtemps, Yehoram, ok, Bessel Gamour, tous ces gens-là vont être la dynastie de Achav. finalement, un prophète est envoyé pour ramener également le peuple d'Israël, c'est-à-dire le royaume du Nord, dans le droit chemin. Car oui, il faut bien comprendre une chose, nous parlons ici des Nevi'im, c'est-à-dire Gamour, mais nous parlons ici des rois d'Israël qui ont formé les royaumes de Judée et d'Israël. Mais il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, eh bien, de concert avec les rois, nous pouvons trouver d'autres personnages principaux du film, à savoir les prophètes, les Nevi'im. Alors évidemment, il y en a qu'on connaît plus que d'autres, bien sûr, mais il faut bien se rappeler que si on parle de Yirmiyahou, Yéhézkel, Jérémie, Ézéchiel, ils sont beaucoup plus tardifs. Ce sont pratiquement les derniers prophètes, puisque ce sont les prophètes du départ en exil. Alors que là, nous sommes au début de la prophétie, après Shmuel et Nathan à Navi. Effectivement, le prophète qui va accompagner, j'ai dit tout à l'heure, Yerovam ben Nevat s'appelle Achia Ashiloni. Et ensuite, eh bien, nous avons d'autres prophètes qui vont, en fait, être ceux qui parlent durant la première moitié du royaume d'Israël. Ce sont des prophètes, certains vous les connaissez, certains pas du tout. Parmi le plus connu, celui qui va être l'alter ego de Achav en termes de prophétie. Si Achav est le roi d'Israël et il fait toutes les erreurs possibles et imaginables au niveau de la Torah, eh bien, le prophète qui est celui qui vit et prophétise à cette époque-là, eh bien, c'est évidemment Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi. Alors, avant Eliyahu, il y avait eu Ido, il y avait eu Azaria, il y avait eu Hanani. Tout cela sont des prophètes qui ne sont pas connus du tout, comme par exemple le prophète Eliezer. Tous ces prophètes sont des prophètes qui n'ont pas de livre et qui ne sont pas connus. Eliyahu n'a pas de livre, mais qu'est-ce qu'il est connu ? Eliyahu Hanavi, évidemment, c'est à ce moment-là qu'il fonctionne. À cette période-là, nous allons avoir également le prophète Ovadia et le prophète Micha, qu'on va pouvoir trouver également Baezor. Une fois que Achav, Achaziaou et Yehoram ont fait leur temps, arrive le prophète Elisha, le successeur d'Eliyahu Hanavi, et c'est lui qui va accompagner la deuxième dynastie du royaume d'Israël. Si la première était celle de Omri et Achav, 4 générations, eh bien, la deuxième dynastie d'Israël, c'est celle de Yehou. Yehou monte sur le trône, et Yehou, alors comment vous dire, au niveau religieux, c'est un tzaddik. C'est-à-dire qu'il remet la Torah en place, tout ce que tu veux, grosse révolution de Yehou. Mais c'est un fanatique religieux. Et donc, c'est quelqu'un qui va faire massacrer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Mamashkara. Et d'ailleurs, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il y a une expression en Afrique du Sud ou en Australie. Je ne sais plus si c'est Afrique du Sud ou Australie, il faudra que je vérifie. Mais une vraie expression qui dit que lorsque quelqu'un roule n'importe comment sur la route, quoi, on ne dit pas c'est un chauffard et tout, il y a une expression qui dit « driving like Jehu », conduire comme Yehu. Et en fait, effectivement, c'est marqué dans le Tanakh que lorsque Yehu va arriver pour tuer Isabelle, la femme de Achav, eh bien, il est sur son cheval et il chevauche, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et tout le monde sait que c'est Yehu parce qu'il n'y a que lui qui conduit comme ça. Donc, c'est devenu une expression en Australie ou en Afrique du Sud, « driving like Jehu ». Yehu est donc tzaddik, mais c'est un fanatique religieux. Il va massacrer tout ce qui peut être massacrable. Yehu, ensuite on va trouver Yoachaz, Yoash, Yerovam Hasheni. Tout cela sont la dynastie de Yehu. Nous avons donc deux grandes maisons principales dans le royaume d'Israël. Celle de Achav, qui a construit énormément, et celle de Yehu, qui a ramené la Torah. Ne t'en fais pas, après Yehu, eh bien on repart dans les travers et le royaume d'Israël retombe dans la Avodah Zarah, tout ce que tu veux, la Méhadrine. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? J'ai dit en Israël, en Judée. En Judée, il ne se passe pas grand-chose. Sauf que, après Yehu, eh bien, nous avons, après la dynastie de Yehu, nous avons petit à petit la décadence du royaume d'Israël, tant dans leurs mœurs que dans leurs relations internationales. Après Yehu, Yoash, Yerovam, Yoachaz, on a dit. Arrive Zecharia, qui ne va, il fait aussi partie de la dynastie de Yehou, mais il ne vit et il ne règne, pas une vie, il ne règne que 6 mois. Et puis après, on va avoir un homme qui s'appelle Shalom, qui ne règne que pendant 1 mois. Ensuite, nous avons un homme qui s'appelle Menachem, Pekachia, Pekar. Et le dernier roi d'Israël s'appellera Hoshea ben Ela. Hoshea ben Ela règne de moins 740 à moins 721. 19 ans, il règne, mais il voit également la fin, la chute de son royaume. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit, ces royaumes sont des vassaux des super grandes puissances. En l'occurrence, ici, maintenant, c'est la Assyrie. Et donc, la Assyrie demande qu'on lui paye un tribut. À un moment donné, Hoshea ben Ela décide de ne plus payer le tribut. Il se révolte donc contre ses maîtres. Il se révolte contre la Assyrie. Qu'à ça ne tienne, les rois de Assyrie décident de montrer à tout le monde dans la région qui est le patron. Et on va mettre en place une campagne de nettoyage de la région. Et le but du jeu est simple, détruire le royaume d'Israël. Sanhérive, mais avant lui, Rav Shaké, eh bien, vont arriver. Vont arriver et vont commencer à détruire le royaume du Nord. Quand je vous dis ils vont le détruire, ils vont le détruire. C'est pas shoot. Ils vont tout simplement détruire le royaume du Nord. Ni plus ni moins. Nous sommes en moins 721. En moins 721, c'est la fin du royaume d'Israël. Pashut kacha, la fin du royaume d'Israël. Il n'y a plus les 10 tribus du Nord. Il n'y a plus de peuple juif là-haut. Certains de ces 10 tribus ont réussi à s'enfuir et sont venus trouver refuge à Jérusalem. Mais le royaume d'Israël est décimé. C'est terminé. À la place, Sanhérib va faire une technique incroyable. Dans les autres peuples qu'on va voir plus tard, qui vont nous exiler, eh bien, en fait, ils prennent le peuple, ils l'envoient en exil, et puis c'est tout. Et la terre reste abandonnée. Sauf qu'une fois que la terre est abandonnée, eh bien, les gens, ils ont tout le temps l'espoir d'y revenir. Sanhérib, il a une autre technique. La terre n'est pas du tout abandonnée. Puisque, une fois avoir amené les Bnei Israël en exil, il y fait venir des remplaçants qu'il avait mis en exil d'un autre peuple qui s'appelait Kout. Et les Koutim arrivent dans le Chambron, dans la Samarie. Et ils vont devenir, par la force des choses, plus tard, on va les appeler les Chambronim, les Samaritains. Mais en vérité, à la base, ce ne sont pas des Samaritains, ce sont des Koutim qui ont été amenés de force ici, par Sanhérib. Le royaume d'Israël est décimé. Qu'en est-il du royaume de Judée? Pour l'instant, ça tient. Pour l'instant, ça tient. Pourquoi? Eh bien, parce que pour l'instant, on paye toujours notre tribut. Mais en moins 701, 20 ans après la révolte du royaume d'Israël, Chizkiyahu, qui est le roi de Yehuda, qui est un tzaddik également énorme, décide que lui aussi, il veut retrouver son indépendance. Et se révolte contre, eh bien, l'oppresseur assyrien. En moins 701, c'est donc la nouvelle campagne assyrienne face au royaume de Judée. Et c'est une campagne terrible. Parce que, ça veut dire quoi? Qui avance Sanhérib? Non, Rav Shaké est son chef de l'armée. C'est lui qui arrive en premier. Avant cela, nous avons d'autres altercations par-ci, par-là, avec des fois avec l'Égypte, des fois avec d'autres peuples. Par exemple, on va avoir le roi pharaon Shishak qui va venir faire une expédition ici chez nous et qui va faire beaucoup de mal après la mort de Shlomo. Mais si tu veux, c'est un coup de poing et puis après ça s'en va. Ici, Sanhérib, c'est la destruction du royaume du Nord. Bekitsour, Chizkiyahu décide de se révolter. Sanhérib arrive. Il arrive et il va détruire petit à petit toutes les villes du royaume de Yehuda. On peut d'ailleurs retrouver la campagne de Lachish. Et oui, à Nineveh, en Irak actuel, eh bien, a été retrouvée, dans les fouilles archéologiques, la salle du trône de Sanhérib. Des découvertes incroyables. La salle du trône de Sanhérib, donc qui a été mise à jour et qu'on peut retrouver aujourd'hui au British Museum à Londres. Là-bas, on y voit plein de choses. Parmi ces choses, eh bien, on va y voir la campagne des soldats assyriens contre la ville de Lachish dans la Shvelat Yehuda. Et c'est très intéressant de voir ce qu'ils ont représenté. Les artistes sont des artistes assyriens. Ils n'ont pas reçu Torah Moshe, Midrashim, ce que tu veux. Ce sont des Assyriens qui racontent, qui représentent, en fait, c'est une sculpture murale, et on représente la campagne de Lachish. Là-bas, on va voir dans les gravures que les soldats assyriens sont en bas et qu'il y a une muraille avec les soldats juifs de Lachish au-dessus de la muraille. Et c'est très intéressant de voir que sur le cartouche, enfin sur la structure, eh bien, les soldats juifs ont un serre-tête avec un carré au milieu. Et oui, vous avez compris, c'est les tefilines. Car on part au combat avec les tefilines. Et oui, comme il est marqué dans la Torah, que lorsqu'on va faire la guerre, c'est-à-dire que Shem Hashem Yikra Yikare Alecha. Qui Shem Hashem Yikra Alecha. Et Rachid nous explique, c'est les tefilines, que quand on sort en guerre, on met nos tefilines pour que le nom de Dieu soit porté haut et fort dans le combat. De là, eh bien, lorsqu'on a retrouvé cette fresque archéologique, eh bien, ça a calmé toutes les personnes qui ont voulu dire que les tefilines n'étaient qu'une invention du Second Temple. Ben non, là, tu vois bien que non. Maintenant, au-delà de cela, ben, c'est-à-dire, toutes les armées de Chizkiyahou ont été décimées. Et lorsque Sanhérib arrive à Jérusalem, en moins 701, Chizkiyahou n'a plus d'armée pour se défendre. Il monte sur son lit, il prie Dieu et il dit « Écoute, faut que tu gères toi, moi je ne peux pas gérer. » Et à ce moment-là, le lendemain matin, nous dit le Tanakh, Nes Gadol Ayapo, l'ange de Dieu est venu frapper le camp des Assyriens. Boum, 185 000 morts. Énorme. Énorme. Vrai, faux. Eh bien, dans ces mêmes fouilles archéologiques à Nineveh, on a retrouvé une pierre octogonale. Une pierre octogonale qu'on a déchiffrée. Et c'était le journal de campagne de Sanhérib sur la campagne de Jérusalem. Et il est marqué là-bas noir sur blanc qu'il est arrivé à Jérusalem, qu'il a mis le roi Chizkiyahou comme un oiseau en cage et qu'il n'a pas réussi à prendre la ville et qu'il a dû repartir. Maintenant, il n'est pas marqué dans la pierre que 185 000 de ses hommes sont morts. Mais dans les faits, à la fin de la guerre de Sanhérib, eh bien, la Assyrie va commencer à chuter et Babylone va commencer à monter. Peut-être parce que la Assyrie n'avait plus d'armée suffisante pour tenir leur position. Quoi qu'il en soit, en moins 701, Jérusalem est sauve et la Assyrie n'est plus qu'un lointain souvenir. À ce moment-là, eh ben, on continue. On continue, mais seulement avec un seul royaume. Eh oui, il n'y a plus de royaume de Yehuda. On continue avec Menaché, le fils de Chizkiyahou, qui lui va être un bon rachat comme il faut, même si, et Menaché, il faut bien le dire, est celui qui va le plus régner dans toute l'histoire juive. Il a un règne extrêmement long de 55 ans. C'est énorme. Et Menaché, 22 ans sera Racha, mais 33 ans va faire Tchouva. Et le problème, c'est qu'on ne retient de lui que la période Racha. Les prophètes, à cette époque-là, eh bien, on a dit, qui est le prophète qui va, alors je reviens deux secondes en arrière, le prophète qui va mettre en place la dynastie de Yehou, eh bien, on a dit, c'est Elisha Annavi. Zénachon. Et après cela, eh bien, nous avons le prophète Yona. Yona qu'on retrouve dans l'histoire de Yona, c'est à ce moment-là qu'il agit. Amos, Oshéa, Amos, Ishayahu et Micha. Aha, Ishayahu, Yoel. Tous ces prophètes parlent à ce moment-là. Ishayahu Anavi est le prophète qui monte sur les murailles de Jérusalem pour dire que les Assyriens n'arriveront pas à rentrer dans la ville. Voilà la situation. Après Menaché, nous avons un fils qui s'appelle Amon. Ensuite, Amon, nous avons un fils qui s'appelle Yoshiyahu. Yoshiyahu Melech Yehuda est celui qui va cacher Aaron Abrit. Eh oui, sentant la menace babylonienne grandir, eh bien, Yoshiyahu Melech Yehuda va prendre Aaron Abrit et va le cacher quelque part dans le mont du Temple. En d'autres termes, il y a toujours quelque part l'Arche d'Alliance à l'intérieur du temple, enfin du monde du temple, n'en déplaise à Indiana Jones. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire également que pendant toute la période du Second Temple, il n'y avait pas de Aaron dans le Kodesh à Kodashim, parce qu'on ne l'avait pas encore retrouvé. Donc, nous avons Menaché, Yoshiyahu, Yehoahaz, Yehoyakim, Et enfin, Tzidkiyahou. Tzidkiyahou Yehoyachin, qui va régner juste après Yehoyakim. Yehoyachin, c'est le dernier véritable roi indépendant de Judée. On le connaît sous un autre nom dans la Megillat Esther. Il s'appelle Yechonia. Et c'est lui qui va être exilé par les Babyloniens. Par les Babyloniens, c'est à ce moment-là que va arriver la menace babylonienne. Qu'est-ce que c'est que cette menace babylonienne? Comment est-ce que les Babyloniens arrivent ici? Et pourquoi ils arrivent ici, Bichlal? Il va falloir répondre à cela. Si Nes Gadol est qui a touché tout le peuple juif, qui est resté alors, pourquoi pas fête? Ah, j'ai compris. S'il y a un grand miracle, qu'on a été sauvé à l'époque de Chizkiyahou, et que, eh bien, on mériterait donc d'en faire une fête, bien évidemment, tu as tout à fait raison qu'on mériterait d'en faire une fête. La libération de Chizkiyahou Melech Yehuda mériterait largement d'avoir une fête. Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas? Pour deux raisons. Eh bien, la première, c'est parce que, comme à l'époque du Second Temple, il y a eu plein de fêtes qui ont été mises en place, qu'on retrouve dans le livre de Megillat Ta'anit, qui étaient des grandes victoires de l'époque du Second Temple, eh bien, à partir du moment où le Temple a été détruit et bien, la souveraineté juive n'existe plus, on a annulé ces fêtes-là parce qu'elles n'avaient plus lieu d'être. Eh bien, on peut dire la même chose ici de Chizkiyahou. C'est une grande victoire qu'on a eue, mais vu qu'on est passé par la destruction du premier temple entre-temps, eh bien, ça nous a fait oublier tout cela. L'autre problème, c'est que effectivement, Chizkiyahou a été extrêmement chanceux d'avoir ce miracle énorme, mais il a refusé de remercier Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, nous dit la Gemara que Chizkiyahou Melech Yehuda lo amar shira. Et en d'autres termes, il n'a pas dit le Hallel à son Yom HaAtzmaout à lui. À tel point, c'est terrible qu'il n'ait pas voulu dire le Hallel. D'ailleurs, il n'a pas dit le Hallel, pas parce qu'il pensait que c'était pas la Géoula, parce qu'il avait peur, et comme il y a eu plein d'Assyriens qui sont morts, il a dit on ne peut pas dire le Hallel, on ne peut pas être heureux. Mais c'est une erreur. Il y a plein de gens qui disent aujourd'hui on ne peut pas dire le Hallel à Yom HaAtzmaout parce qu'il y a plein d'Arabes qui sont morts. Mais Chizkiyahou et les gens qui disent ça aujourd'hui font une erreur. Pourquoi? Eh bien, parce que, effectivement, dans la Shabbat qu'on a lu là maintenant, Shabbat Shira, on a lu que les anges ont voulu chanter la Shira au moment où les Égyptiens sont morts. Et à ce moment-là, Dieu a dit « Asse yadai tov im bayam v'atem omrim Shira » « Mes créatures sont en train de se noyer et vous dites la Shira, donc taisez-vous » Mais c'est vrai, quand tu es un ange, tu n'as pas le droit de te réjouir de la mort d'autres créatures de Dieu. Mais quand tu es un Israël, tu dois dire la Shira Tayam, sinon c'est un grand péché. Donc, Chizkiyahou aurait dû dire son Hallel. Je dis à Gemara que les Malachim voulaient faire de Chizkiyahou le Mashiach, tant attendu. Et que la guerre avec Sanhérib doivent être la guerre de Gog ou Magog. C'est terminé, ça y est, on arrive à la fin de l'histoire. Pourquoi est-ce que finalement Chizkiyahou n'a pas été le Mashiach? Parce qu'il n'a pas dit le Hallel à son Yom HaAtzmaout à lui. Parce qu'il a refusé de dire la Shira. Baruch HaShem, qu'on a appris des erreurs du passé, et qu'aujourd'hui, eh bien, on est capable de dire le Hallel pour notre Yom HaAtzmaout, et ce qui nous laissera à comprendre comment les Babyloniens finalement arrivent, pourquoi ils arrivent, et comment, petit à petit, est en train de se profiler la fin de la royauté d'Israël du premier temple. À bientôt, les amis!